bonjour à toutes et à tous. Troisième et dernier épisode de notre radiographie de la pauvreté au temps du coronavirus. Cette semaine, nous nous sommes plongés dans les écrits des grands économistes afin de comprendre comment la science de la richesse peut nous aider à lutter contre la pauvreté, ce phénomène que notre système social, aussi protecteur soit-il, peine à éradiquer et qui touche en particulier la jeunesse. La précarité des étudiants et des jeunes actifs s'est encore aggravée avec la crise du Covid et ravive le spectre d'une génération sacrifiée. Péril sur les jeunes, c'est notre sujet aujourd'hui dans Entendez-vous les coups. Bienvenue à tous dans votre magazine d'économie. Pour parler de l'appauvrissement de la jeunesse, nous accueillons aujourd'hui à distance Catherine Fillon, professeure d'histoire du droit et des institutions à l'université Lyon 3 et fondatrice du collectif de solidarité étudiante de Lyon qui livre des paniers alimentaires pendant le confinement. Avec nous également depuis chez lui Camille Peny, sociologue, professeure à l'université Versailles-Saint-Quentin et auteur de cet ouvrage « Destin au berceau, inégalité et reproduction sociale » paru au Seuil il y a quelques années. À 14h50, Xavier Martinet sera virtuellement parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Son père, pendant les vacances, le laissait au collège. Une traduction de Platon ouverte par hasard l'enthousiasma. Alors, il s'est pris d'études métaphysiques. Et ses progrès furent rapides, car il les abordait avec des forces jeunes et dans l'orgueil d'une intelligence qui s'affranchit. Geoffroy, Cousin, La Romiguière, Malebranche, les Écossais, tout ce que la bibliothèque contenait y passa. Il avait eu besoin d'envoler la clé pour se procurer des livres. Il ambitionnait d'être un jour le Walter Scott de la France. Il causait de tout cela pendant les récréations, dans la cour, en face de l'inscription morale peinte sous l'horloge. Il parlait de ce qu'il ferait plus tard quand il serait sorti du collège. D'abord, ils entreprendraient un grand voyage avec l'argent que Frédéric prélèverait sur sa fortune à sa majorité. Puis il reviendrait à Paris, ils travailleraient ensemble, ne se quitteraient pas. Et comme délassement à leurs travaux, ils auraient des amours de princesses dans des boudoirs de satin ou de fulgurantes orgies avec des courtisanes illustres. Des doutes succédaient à leur emportement d'espoir. Après des crises de gaieté verbeuse, ils tombaient dans des silences profonds.
Les rêves et les doutes de Frédéric, le héros de l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert, roman paru en 1869. Bonjour Catherine Fillon et Camille Peny.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Le temps des études devrait être celui des espoirs et des ambitions, comme Flaubert les décrit dans son roman. Mais avec la crise du coronavirus, c'est l'inquiétude des fins de mois qui domine Catherine Fillon.
Ah oui, mais déjà chez Flaubert, hein, parce que Deslauriers lui-même, le compagnon de Frédéric, est un étudiant râpé et impécunieux. Mais c'est sûr que nos étudiants, là, sont en grande souffrance actuellement. Oui, les fins de mois sont très, très difficiles.
Les étudiants en grande souffrance et également les jeunes travailleurs, Camille Peny, sont ceux aujourd'hui qui souffrent le plus de la crise économique liée au Covid.
Oui, en tout cas, c'est important de ne pas oublier effectivement les jeunes travailleurs quand on parle des jeunes aujourd'hui, puisque si on prend par exemple les 18-25 ans aujourd'hui en France, finalement la jeunesse étudiante ne représente jamais que la moitié de cette jeunesse, donc c'est évidemment beaucoup, mais effectivement la moitié de cette classe d'âge, la moitié de cette génération est déjà sortie de formation initiale et donc pour une part fait face aux difficultés sur le marché de l'emploi, puisqu'on sait que l'insertion sur le marché du travail est plus compliqué pour les jeunes que pour le reste de la population, surtout pour les jeunes peu diplômés. Et donc, évidemment, la crise économique actuelle va se traduire par un allongement encore de ce temps de l'insertion sur le marché du travail et donc créer des situations de pauvreté, oui.
Catherine Fillon, vous avez mis en place ce collectif de solidarité étudiante à Lyon juste pour livrer des paniers alimentaires pendant le premier confinement, également pendant le deuxième. Et ce que ce premier confinement a révélé, selon vous, c'est que le système étudiant n'était pas préparé aux crises ?
Non, l'université n'est pas préparée aux crises. Les institutions n'étaient pas du tout préparées aux crises. En tout cas, les institutions comme le CROUS, qui doivent aussi aider, c'est leur mission normalement, les étudiants. Il n'y a pas eu de réponse institutionnelle. Ça c'est absolument évident. Ce qui fait que on est venu combler enfin essayer de combler à la mesure de nos modestes moyens une énorme lacune. Oui.
L'idée, c'était d'aider notamment ceux qui n'ont pas pu partir dans leur famille. Pour quelle raison est-ce que, effectivement, toute une série d'étudiants, toute une partie des étudiants n'a pas pu revenir dans leur famille, Catherine Fillon?
Alors, d'abord parce que beaucoup d'étudiants sont aussi des étudiants étrangers qui n'avaient aucune possibilité de pouvoir rentrer puisque les frontières étaient fermées à cause de la crise sanitaire. Ensuite, certains retours, même pour des étudiants étrangers, dans la mesure où les États les rapatriaient, étaient très difficiles parce que très onéreux. J'ai le souvenir du parcours du combattant d'une petite étudiante tunisienne qui n'arrivait pas à rentrer parce qu'on lui demandait le prix, on lui demandait 300 euros pour rentrer en Tunisie, mais 300 euros. En euros et payer, c'était pas possible, c'était juste pas possible. Donc beaucoup d'étudiants étrangers n'ont pas pu rentrer, quelques étudiants français, c'était pas la majorité. La majorité est rentrée tout de suite, le plus vite possible chez les parents. D'autres étudiants français ne sont pas rentrés parce que, d'une part, ils avaient peur de contaminer un de leurs proches qui pouvait être de santé fragile, une personne exposée. Donc, ils ont préféré rester dans leur résidence universitaire ou dans leur appartement lyonnais. D'autres n'ont pas voulu rentrer parce qu'ils appartiennent à des familles nombreuses et qu'il n'y a pas la place nécessairement à la maison pour travailler dans des bonnes conditions, sachant que les cours allaient être en ligne. D'autres sont en rupture familiale parmi nos étudiants français. C'est bien évident que les familles ne sont pas toujours derrière pour soutenir. Parfois, elles sont un problème pour l'étudiant qui doit se débrouiller seul. Donc, il y avait des cas de figure qui pouvaient être très différents. Les parents habitent à l'autre bout de la France et d'aucuns n'avaient pas l'argent, tout simplement, pour acheter le prix du billet de train pour rentrer.
Et est-ce que vous diriez, Catherine Fillon, que des leçons ont été tirées du premier confinement de telle sorte que l'aide apportée à ces étudiants au cours du second confinement ont été facilitées? Il y a eu davantage de possibilités de répondre à la demande?
Alors, je dirais oui et non. Il y a un effort très net, beaucoup plus net cette fois-ci du côté du CROUS, puisqu'il y a quand même un peu plus de. Bon, ce qui était terrible au printemps, c'est que les restaurants universitaires ont fermé quasiment du jour au lendemain et que les étudiants se sont retrouvés privés de ce qui est un moyen pour eux, pour une bonne partie d'entre eux, de s'alimenter. Donc, c'était absolument tragique. Au printemps, on avait des appels à l'aide d'étudiants qui nous disaient « Mais s'il vous plaît, j'ai faim, quoi. » Et j'en ai encore un aujourd'hui qui m'a écrit ça, donc le problème n'est pas réglé complètement. Mais c'était l'absence totale de structures vers lesquelles se tourner. Donc je dirais que pour le deuxième confinement, et même depuis la rentrée, il y a davantage d'efforts qui ont été faits, mais qui bénéficient essentiellement aux étudiants qui sont déjà boursiers. Donc ça ne, et boursiers français bien sûr, donc ça ne concerne pas la totalité de cette population étudiante. Et il est clair que la plus précarisée, ce sont les étudiants étrangers. Ça, c'est manifeste.
Alors, le Covid a accentué des difficultés qui préexistaient. Camille Peny, la paupérisation de la jeunesse n'est pas nouvelle. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on l'observe en France.
Oui, tout à fait. Alors peut-être pour confirmer ce que disait ma collègue à l'instant, ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est que la population étudiante a beaucoup changé, hein, au cours des dernières décennies, puisqu'avec la massification scolaire, on a aujourd'hui dans l'enseignement supérieur davantage d'étudiants d'origine populaire ou d'origine modeste, et donc qui sont susceptibles de basculer dans la précarité assez rapidement, qui sont à 10 euros près pour leur budget étudiant. Et plus fondamentalement, oui, vous avez raison. Si on regarde l'évolution des taux de pauvreté par âge depuis une quarantaine d'années, il y a eu un grand basculement puisque jusqu'au début des années 1980, les taux de pauvreté les plus élevés étaient repérés chez les plus âgés, chez les retraités. Et puis aujourd'hui, c'est bien chez les 18-25 ans que les taux de pauvreté sont les plus importants. Le taux de pauvreté chez les 18-25 ans a été multiplié par 2 en 40 ans, alors qu'il a été divisé par 2 pour les plus de 65 ans, par exemple.
Comment est-ce qu'on l'explique, Camille Peny, et comment on explique en particulier cette très forte paupérisation de la jeunesse au début des années 2000? Parce que c'est vraiment à ce moment-là, notamment, que la situation des jeunes s'est dégradée.
Alors, on l'observe pour plusieurs raisons d'importance inégale d'ailleurs. Il y a une première raison, c'est pour les jeunes qui ne sont plus en études, les dégradations des conditions d'insertion sur le marché du travail. C'est-à-dire que les parcours d'insertion après la fin des études sont de plus en plus un enchevêtrement de périodes d'emploi, de chômage, d'inactivité. Donc tout cela vient précariser et a un effet direct sur les revenus de ces jeunes. Et puis il y a aussi ce que j'indiquais à l'instant, c'est-à-dire la transformation de la population étudiante qui accompagne la massification scolaire. Voilà, aujourd'hui les étudiants ne sont plus tout à fait les héritiers de Bourdieu, hein, et donc on a des étudiants qui sont sur le fil du rasoir, issus de familles très modestes. Et puis il y a aussi une tendance de fond liée aux politiques publiques, qui est que par exemple en France, les jeunes de moins de 25 ans sont privés d'un certain nombre de prestations sociales, comme par exemple du RSA, en tout cas dans les mêmes conditions que le reste de la population, ce qui crée des poches de pauvreté au sein de la jeunesse et qui ont tendance à s'étendre. Donc il y a plusieurs dimensions à prendre en compte.
Comment expliquer que les dispositifs mis en place au cours des dernières décennies n'aient pas permis justement, Catherine Fillon, d'empêcher la hausse de la pauvreté étudiante, puisqu'il y a tout de même eu des logements universitaires qui ont été construits, différents échelons de bourses sont apparus, et puis il y a cette allocation au logement qui s'est ouverte aux étudiants et aux jeunes travailleurs dès les années 70, ça n'a pas suffi.
Bah manifestement non, ça ne suffit pas. En même temps, les APL, moi ce que j'ai pu constater, d'abord c'est qu'il faut que ces allocations soient versées dans un délai raisonnable pour ne pas enfoncer complètement l'étudiant. On a constaté, nous, des dysfonctionnements avec des plusieurs mois, voire quasiment un an avant que l'étudiant puisse toucher les APL. Donc pendant ce temps-là, sa situation a eu le temps de se dégrader, le CROUS de le considérer comme mauvais payeur et donc pris la décision de mettre l'étudiant dehors, de sortir l'étudiant de la résidence parce qu'il n'a pas payé son loyer. Mais bon, ça c'est un cas un peu extrême, mais bon, il y a des dysfonctionnements administratifs. Après, ce que je sais aussi, c'est que les propriétaires qui louent dans le parc locatif privé à des étudiants ont tendance à répercuter le montant de l'APL sur le loyer en disant l'étudiant va toucher l'APL, donc j'augmente le loyer.
Alors ça, effectivement, c'est un problème qu'on a entendu de façon récurrente au cours des dernières décennies. Camille Peny, sur cette idée que le gouvernement, les différents gouvernements n'ont pas réussi à répondre à cette problématique de la pauvreté étudiante.
Oui, alors il y a deux niveaux. Il y a d'abord les budgets étudiants. Quand on regarde les budgets étudiants, on sait qu'ils sont particulièrement grevés par le coût du logement, hein, qui est très important dans le budget étudiant et qui est lié assez directement au manque de places dans les résidences universitaires. Hein, voilà, dans les universités françaises, il n'y a pas de vrai campus avec un grand nombre de chambres en résidence universitaire. Donc ça vient directement obérer assez largement le budget des étudiants. Et puis plus profondément, je pense qu'il y a des choix en termes de politique publique qui font qu'en France, on a fait reposer sur la politique familiale la prise en charge de cet âge de la vie qu'est la jeunesse, et singulièrement le financement des études. Par exemple, en France, contrairement à ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe, on ne verse pas d'allocation universelle aux jeunes qui se forment, mais on va éventuellement aider leurs parents indirectement en, par exemple, leur permettant de conserver, pour les familles qui ont la chance de payer l'impôt sur le revenu, une demi-part fiscale au-delà des 18 ans si l'enfant continue ses études. Ou alors, on va continuer à toucher les allocations familiales. Et donc, en familialisant cet âge de la vie, en familialisant cette période des études, eh bien, on ne permet pas à tous les jeunes de pouvoir les accomplir, ces études, dans de bonnes conditions.
Et justement, quels sont les autres modèles qui existent en Europe pour lutter contre la pauvreté des jeunes? La France pourrait s'inspirer de ce modèle scandinave. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Camille Peny?
Oui, alors là, ce sont les travaux, par exemple, de ma collègue sociologue Cécile Van de Velde ou d'un politiste qui s'appelle Tom Chevalier, qui ont bien montré, chacun à leur manière, qu'il y avait trois modèles, en fait, en Europe. Un modèle, effectivement, scandinave, où cet âge de la vie repose sur une forte intervention de l'État, avec, par exemple, au Danemark, le fait que chaque jeune, quelle que soit son origine sociale et quel que soit le niveau de ressources de ses parents, bénéficie de 72 mois de formation payé par l'État à
Ça fait
hauteur de
6 ans.
800 euros par mois. Voilà, ça fait 6 ans, ce qui est très important et qui est cumulable avec une allocation logement qui n'est pas négligeable non plus, ce qui fait qu'à 21 ans, la moitié des jeunes Danois ont décohabité de chez leurs parents. Le deuxième modèle, c'est le modèle libéral tel qu'il s'observe en Angleterre, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à l'État, mais on fait confiance au marché. Donc le marché, c'est le marché du travail. Les jeunes étudiants français sont de plus en plus nombreux à travailler, mais les jeunes étudiants britanniques travaillent encore plus fréquemment et encore plus précocement. Et puis le marché financier, c'est-à-dire que les jeunes s'endettent. Il y a une politique de prêt étudiante qui est très importante. Donc on fait confiance au marché. Et puis dans les pays du sud de l'Europe, c'est plutôt sur la famille qu'on fait reposer cet âge de la vie, c'est-à-dire il est assez normal de rester chez ses parents jusqu'à plus de 25 ans. Hein, l'âge médian de décohabitation en Espagne est de 27 ans, jusqu'à ce qu'on ait accumulé assez de ressources pour fonder son propre foyer schématiquement.
C'est assez frappant,
en France,
effectivement, de voir que l'Italie compte seulement 11% de boursiers, alors que la Suède en compte 87%. Et la France, en effet, fait en quelque sorte un mélange de tous ces modèles, Camille Penny.
Oui, c'est ça, c'est quelque chose d'assez hybride. Il ne s'agit pas de dire que l'État n'intervient pas. Il y a quelques bourses, mais sous conditions de ressources des parents, pour la plupart. Il y a les allocations logement, avec les limites qu'on vient de mentionner. Il y a un peu de marché, de plus en plus de marché. Hein. Les étudiants français s'endettent et puis ils travaillent. Mais il y a surtout beaucoup de familles qui n'est pas assumée socialement. C'est-à-dire qu'en France, les jeunes français, qu'ils soient étudiants ou pas d'ailleurs, sont placés dans une sorte d'injonction contradictoire. D'un côté, une exigence un peu libérale, faut être autonome, faut se prendre en main, etc. Mais de l'autre côté, les politiques publiques font qu'ils restent sous la dépendance de leurs parents. Et c'est évidemment un système qui contribue à la reproduction des inégalités, puisque si l'on laisse cette période de la vie dépendre de l'épaisseur du portefeuille des parents, on comprend pourquoi dans les pays du nord de l'Europe, il y a quand même une plus faible reproduction des inégalités et une plus forte mobilité sociale.
Quelles limites est-ce que vous voyez dans ce modèle français, Catherine Fillon, sachant que dans cette période particulière que l'on vit, le problème c'est que beaucoup d'étudiants, et en particulier des étudiants étrangers, sont en grande difficulté parce qu'ils n'ont pas pu travailler cet été et beaucoup d'entre eux comptent sur ce complément de revenus pour financer leur vie quotidienne et leurs études.
Oui, alors pour revenir justement sur ce que vous disiez juste avant, le modèle français part du principe que la famille est aidante. C'est vrai dans bien des cas, mais ça n'est pas vrai dans tous les cas non plus. Moi, j'ai rencontré des étudiants qui m'ont dit « Bon, mes parents estiment que ça, c'est mon choix de faire ce type d'études, donc je dois me débrouiller. » Et ne veulent pas financer. Ou on veut faire régner une égalité avec les frères et sœurs, donc c'est des études qui coûtent trop cher, à moi de me débrouiller. Donc voilà, c'est aussi une des limites du modèle français. Le postulat de départ est globalement vrai, mais pas dans tous les cas.
Vous avez aussi rencontré des étudiants qui étaient endettés à cause de leurs études.
Bien sûr. Ça fait partie des choses qui nous sont dites très régulièrement. Des étudiants qui font, bien sûr, parfois des écoles de commerce extrêmement onéreuses et qui sont endettés jusqu'au cou. D'autres qui nous disent avoir fait un prêt étudiant, effectivement, et ne pas s'en sortir. Parce que la condition du remboursement du prêt étudiant, c'est de réussir à travailler à côté. Mmh. Et là, en ce moment, du travail, il n'y en a pas. Et alors, pour certains étudiants, on est arrivé au printemps à avoir des situations qui étaient complètement renversées. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une étudiante qui n'a pas fait appel à nous pour les distributions alimentaires, mais que j'ai dû lui faire passer un examen. Et cette jeune femme m'a expliqué qu'en réalité, sa mère avait perdu son boulot, son père était coincé à l'étranger, et c'est elle, avec son travail de caissière chez Auchan, qui faisait bouillir la marmite de toute la famille. C'est-à-dire que là, on avait un renversement complet de perspective.
Alors, il y a effectivement un problème par rapport à la difficulté de trouver un emploi aujourd'hui, Catherine Fillon, pour tous ces étudiants qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et donc, c'est un peu la double peine, Camille Penny, pour les jeunes travailleurs, puisque une partie d'entre eux a perdu son emploi, puisqu'on sait que 50% des jeunes ont des contrats précaires. Et en parallèle, le marché de l'emploi s'est fermé.
Oui, alors c'est vrai que par exemple quand on pose la question des conséquences de cette crise sanitaire puis de cette crise économique pour la jeunesse, il y a deux types de conséquences. Je pense qu'il faut quand même distinguer, même si je suis enseignant-chercheur moi-même, on est confronté exactement aux mêmes situations de précarité que ma collègue, mais je pense qu'à moyen terme il faut distinguer quand même la jeunesse étudiante de la jeunesse qui a quitté rapidement les bancs de l'école. Et évidemment pour les jeunes étudiants qui vont vont chercher un emploi dans les prochains mois, on va avoir un allongement de cet accès à l'emploi et encore plus à l'emploi stable. Mais on peut penser qu'à moyen terme, ils vont réussir à s'insérer sur le marché du travail. Par contre, la moitié de cette classe d'âge qui continue pas ses études dans l'enseignement supérieur et qui déjà, j'allais dire, part en calme, voit sa situation largement tributaire de la conjoncture, c'est-à-dire un petit peu d'emploi précaire quand il y a de la croissance et les périodes de chômage dès que la conjoncture se retourne. Cette portion-là de la jeunesse, qui connaissait déjà des difficultés avant la crise du Covid, hein, il y avait un écart, par exemple, de taux de chômage de 40 points entre les diplômés de l'enseignement supérieur et les non-diplômés. Eh bien, cette part-là de la jeunesse, elle risque d'avoir de longues années très compliquées sur le marché du travail. Oui.
De longues années très compliquées, c'est ce que prouvent aussi ces témoignages recueillis par le Huffington Post au mois de septembre.
Tout ça lié, les crises économiques, la crise du Covid, etc., ça fait très peur pour la suite.
Mais on me répond même pas. C'est soit on m'appelle, on me dit désolé avec ce qui se passe, on peut pas, etc. Ou soit on me dit directement, ah non, on prend pas. On prend plus, on prend plus, on prend plus. C'est déjà pris. Tout, à chaque fois.
Même au niveau des offres, il n'y a pas beaucoup d'offres. Et en plus, c'est sous-payé, je trouve, aussi, les peu de choses qu'ils proposent. Ce qu'on me répond, c'est que je peux faire un stage de 2 mois non rémunéré. Ça, on me le répond souvent, par contre. Mais c'est tout ce qu'on me propose, alors que je suis diplômée d'un master de droit international avec mention. Donc, c'est pas du tout ce que je recherche.
Je suis en recherche d'emploi depuis le mois de janvier et qu'on n'a toujours pas de réponse. Au début, on avait des réponses positives, mais depuis le confinement, plus rien de positif. Après le confinement, c'était non, on postule plus. Non, désolé, on est en crise économique, on vous rappelle. Je me dis que ça va être compliqué pour tous parce qu'on est beaucoup là dans le même cas et ça va être compliqué.
Face à ces défis, le gouvernement a lancé au mois de juillet un plan jeune doté de 6,5 milliards d'euros pour inciter les entreprises à embaucher. Vous diriez, Camille Penny, que l'exécutif a pris la mesure de la gravité de la situation ?
Non, c'est compliqué de répondre à cette question, parce que ce serait un jugement de ma part, mais disons que ce qu'on observe, c'est que faute d'une politique publique en direction de la jeunesse qui, indépendamment des crises, permette à chaque jeune de devenir adulte, de devenir indépendant et de subvenir à ses besoins, on se retrouve en période de crise à coller une énième rustine sur une fraction de la jeunesse en excluant une partie de la jeunesse de ces aides. Donc on fait du bricolage à chaque fois, alors qu'il y aurait une mesure extrêmement simple qui serait d'enfin étendre le RSA à l'ensemble des jeunes de moins de 25 ans dans les mêmes conditions pour le reste de la population. C'est pas la panacée, le RSA, hein, c'est toujours bien en dessous du seuil de pauvreté, mais ça permet quand même de faire face à un certain nombre de situations d'urgence. Donc à chaque crise, hein, c'était la même chose au moment de la crise économique et financière de la fin de la décennie 2000, c'est la même chose aujourd'hui, on bricole des dispositifs qui sont d'ailleurs souvent annoncés de manière assez confuse, là on revient sur le type de bénéficiaire le lendemain, etc. Donc on bricole, on improvise, alors qu'on devrait plutôt, à mon sens, réfléchir à transformer en profondeur les politiques publiques.
Mais alors c'est tout de même un montant conséquent, 6,5 milliards d'euros, Camille Penny. Et effectivement, avec ces 700 000 jeunes qui sont arrivés sur le marché de l'emploi en cette rentrée 2020, est-ce qu'il n'y avait pas vraiment une nécessité d'inciter les entreprises à embaucher à travers ces aides ? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces aides fonctionnent et qu'il y ait tout de même un certain nombre de jeunes qui puissent être embauchés grâce à cela ?
C'est un grand débat, la question des aides versées aux employeurs pour l'embauche des jeunes. C'est ce qui a souvent été fait schématiquement par les gouvernements de droite. Alors les gouvernements de gauche agissent surtout sur des contrats, des types de contrats qui sont réservés aux jeunes. Il y a eu les emplois jeunes sous Lionel Jospin, il y a eu les emplois d'avenir de François Hollande, et puis les gouvernements plus libéraux effectivement mettent en place des exonérations de charges ou de cotisations pour les emplois ou des aides pour les employeurs. Les résultats sont pas souvent très concluants, il y a des effets d'aubaine, et donc voilà, moi je suis pas économiste et il faudra évaluer quels effets cette somme importante effectivement a, mais voilà, ce qu'on observe en tout cas, averti par l'expérience, c'est qu'il n'y a pas de miracle à attendre de ces dispositifs qui transforment pas radicalement les possibilités d'insertion sur le marché du travail.
Catherine Fillon, quel est votre regard sur ce plan jeune du gouvernement et les différentes mesures qui sont proposées ?
Je suis perplexe et assez sceptique. Je souhaite évidemment que ça puisse fonctionner, mais je crois effectivement, comme mon collègue, qu'il n'y a pas une réflexion globale sur le problème. Beaucoup d'étudiants là en ce moment, sans même vouloir entrer encore sur le marché du travail, cherchent tout simplement des stages qui sont parfois obligatoires dans les formations et ne les trouvent pas. Et les cherchent depuis 6 à 7 mois maintenant. Et disent, je deviens dingue, je cherche, j'écris partout et je ne trouve pas. Donc, oui, je ne sais pas moi non plus, hein, je ferai la même réponse. Je ne suis pas davantage spécialiste.
Mais alors, ce que ce plan prévoit tout de même, c'est 50 000 places de plus en garantie jeune. Alors, il faut rappeler ce que c'est que la garantie jeune. C'est un dispositif qui s'adresse aux 16-26 ans les plus vulnérables. Il a été créé en 2013, généralisé en 2017. Et donc, il oblige le jeune à s'engager dans un parcours d'insertion d'une année avec une aide de 497 euros mensuels. Camille Penny, c'est un dispositif qui a plutôt fait ses preuves.
Oui, alors c'est intéressant la garantie jeune parce que pour le coup c'est un dispositif qui vient plutôt des pays du nord de l'Europe et c'est un dispositif qui est individualisant au sens où pour pouvoir en bénéficier le jeune doit se détacher fiscalement par exemple de la situation de ses parents. Donc dans les pays du nord de l'Europe, la garantie jeune elle servait à donner une seconde chance en fait à des jeunes qui avaient décroché précocement du système scolaire, bien que le système scolaire par exemple dans les pays du nord de l'Europe soit moins sélectif et plus inclusif. Et donc en France effectivement en 2013 on a testé la garantie jeune et puis elle a été généralisée par François Hollande, je crois, à la fin de son mandat. Et là, j'ai entendu ce matin que le Premier ministre avait annoncé vouloir doubler pour l'année 2021 le nombre d'emplaces en garantie jeune. Donc ça, c'est un dispositif, effectivement, qui va plutôt dans le bon sens, dans la mesure où on va inciter le jeune à retourner en formation en lui versant une allocation qui est de l'ordre, effectivement, du RSA, donc un peu moins de 500 euros. Et donc, c'est vrai que les premières évaluations qui ont été faites de la garantie jeune étaient plutôt positives de ce point de vue-là.
Un tiers des emplois décrochés sont durables. C'est un résultat qui est quand même vraiment significatif, Camille Penny.
Oui, tout à fait. C'est un dispositif qui fonctionne plutôt bien. Évidemment, il faudra voir, hein, puisque on annonce que il y aura 200 000 places en 2021. En théorie, tout jeune de moins de 25 ans qui est indépendant financièrement de ses parents, qui est en difficulté économique et qui est peu diplômé, peut en bénéficier. Mais dans les faits, ce sont les missions locales qui sont opératrices de ce dispositif. Il faut voir effectivement si dans les faits, tous les jeunes pourront avoir une place en garantie jeune.
Comment lutter contre la pauvreté de la jeunesse et comment lutter de façon égalitaire près de 60 ans après les héritiers de Pierre Bourdieu? L'origine sociale est-elle plus déterminante que jamais? On en parle dans un instant.
La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le verso lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces grises et BMW la monnaie? Est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres, sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur de caviar, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge, lui passe sa thèse? Pourquoi les cages d'acier, les cages dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas sous la même étoile?
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Je peux rien faire.
Née sous la même étoile, Dayam sur France Culture. Péril sur les jeunes, c'est notre sujet aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie de la professeure de droit Catherine Fillon et du sociologue Camille Peny. À présent, il est temps de convoquer dans notre émission une grande figure, celle de Pierre Bourdieu, qui publie en 1964 Les Héritiers avec Jean-Claude Passeron. Extrait.
De tous les facteurs de différenciation, l'origine sociale est sans doute celui dont l'influence s'exerce le plus fortement sur le milieu étudiant. Définissant des chances, des conditions de vie ou de travail tout à fait différentes, l'origine sociale est, de tous les déterminants, le seul qui étende son influence à tous les domaines et à tous les niveaux de l'expérience des étudiants et en premier lieu aux conditions d'existence. Utilisateurs de l'enseignement, les étudiants en sont aussi le produit, et il n'est pas de catégorie sociale dont les conduites et les aptitudes présentes portent davantage la marque des acquisitions passées. Or, comme nombre de recherches l'ont établi, c'est tout au long de la scolarité, et particulièrement lors des grands tournants de la carrière scolaire, que s'exerce l'influence de l'origine sociale. La conscience que les études, et surtout certaines, coûtent cher, et qu'il est des professions où l'on ne peut s'engager sans un patrimoine, les inégalités de l'information sur les études et leurs débouchés, les modèles culturels qui associent certaines professions et certains choix scolaires à un milieu social, tout cet ensemble de facteurs qui font que l'on se sent à sa place ou déplacé à l'école et qu'on y est perçu comme tel, déterminent, toutes aptitudes égales par ailleurs, un taux de réussite scolaire inégal selon les classes sociales et particulièrement dans les disciplines qui supposent tout un acquis, qu'il s'agisse d'instruments intellectuels, d'habitudes culturelles ou de revenus.
Voilà un extrait des Héritiers de Pierre Bourdieu, lu par notre réalisatrice Anne de Pelchin. Avant de parler du poids de l'origine sociale, rappelez-nous peut-être, Camille Peny, dans quel contexte économique et social est publié cet ouvrage qui est fondateur pour la sociologie ?
Oui, bah cet ouvrage Les Héritiers est publié dans la première moitié des années 1960, en 1964. Donc à un moment où la France connaît évidemment, comme la plupart des autres pays occidentaux, une période de forte croissance, caractéristique des Trente Glorieuses. Et puis du point de vue de l'école, c'est aussi la première vague de la massification scolaire, puisque en 1959, l'âge de fin de scolarité obligatoire a été prolongé jusqu'à 16 ans. Il était de 14 ans auparavant. Et donc ça s'est traduit mécaniquement par l'accès de tous les enfants, quasiment, quelle que soit leur origine sociale, à l'enseignement secondaire. Et donc on est dans cette période-là lorsque Bourdieu écrit Les Héritiers.
Et ce que montre Pierre Bourdieu, c'est l'importance du capital culturel et pas seulement économique dans la reproduction des inégalités, à Camille Peny.
Absolument. Évidemment, il y a des obstacles économiques, hein, poursuivre des études coûte cher, y compris à l'époque. Mais ce que montre Pierre Bourdieu et le cœur dans son argumentation, c'est, pour dire les choses peut-être de manière un peu caricaturale, c'est que les enfants qui sont issus du milieu favorisé disposent d'une culture, d'un capital culturel qui les situe beaucoup plus près de l'école. Et les enfants des classes populaires ne parlent pas le langage de l'école et donc ont tout un travail d'acculturation à accomplir, tandis que la culture scolaire est beaucoup plus proche de la culture des classes favorisées, des classes dominantes, et donc il y a ces dispositions héritées, ces dispositions acquises qui viennent compliquer le rapport des enfants des classes populaires à l'école. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, dans la logique de Pierre Bourdieu, on voit bien comment une politique d'aide financière pour les étudiants ne suffirait pas à lever, ne suffisait pas, en tout cas à l'époque, à lever tous les freins qu'il y a à la poursuite des études.
Alors, depuis 1950, les effectifs des universités ont été multipliés par 6. Mais est-ce qu'on peut dire, Catherine Fillon, que les inégalités sociales marquent encore l'accès à l'enseignement supérieur ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça se voit très vite à l'issue d'une première année où il y a une forme de sélection qui s'opère, qui n'est pas liée nécessairement à la difficulté des examens, mais qui met effectivement en lumière justement cet écart, ce capital culturel et social qui fait défaut à certains et qui ne leur permet pas de vite comprendre ce que l'on attend d'eux et de s'y adapter.
Alors, il y a effectivement ce capital culturel et ce capital économique qui passe en particulier par le logement, qui apparaît comme le premier facteur d'inégalité sociale et économique. Dans le film Peur de rien de Daniel Arbid, une jeune Libanaise de 17 ans, Lina, vient faire ses études en France. Elle loge chez son oncle et sa tante en banlieue parisienne. Mais elle fuit l'atmosphère malsaine de cette maison et commence un job dans une agence immobilière pour payer son loyer. Elle travaille alors plus que le nombre d'heures autorisées et se voit menacée d'expulsion.
Bien, dossier suivant.
Mademoiselle Lina Karam.
Approchez-vous, mademoiselle.
J'interviens au nom de mademoiselle Lina Karam.
Très bien, maître.
Monsieur le Président, vous êtes saisi d'un dossier paradoxal. Aujourd'hui, on entend dans la bouche des politiques de droite...
Maître, s'il vous plaît, tenez-vous-en au dossier.
Ah, justement, monsieur le Président, c'est cela le dossier. D'une part, on stigmatise les étrangers qui viennent en France gagner leur vie à force d'argent braguette. Ils viennent sous la coulée d'eau sans somme et creuser, même pas à coup de pioche, le déficit de la sécurité sociale. Et de l'autre...
Écoutez, maître, le tribunal connaît votre show. Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale.
Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous. Mais les faits qui sont reprochés à ma cliente sont graves. Elle réussit dans ses études et elle travaille trop. Voyez, cette énergie de la jeunesse qu'elle offre à notre pays, la France, à coup d'heures supplémentaires, elle croyait être libre. Le fonctionnaire qui a rédigé la notification d'expulsion, lui, il n'a pas fait preuve du même zèle. Il a oublié de mentionner l'article 23.7 de l'ordonnance du 13 avril 1967. Et de fait, vous savez bien, monsieur le Président, que vous ne pouvez qu'annuler la procédure. La liberté se défend, monsieur le Président, et parfois ici, elle se mérite.
Merci, maître. L'audience est levée. Le délibéré sera rendu après la suspension.
Catherine Fillon, c'est un film qui met en lumière la situation particulièrement difficile des étudiants étrangers qui ne sont autorisés à travailler, il faut le rappeler, que l'équivalent de 60% d'un temps plein.
Tout à fait, tout à fait. Donc, pour des petits jobs étudiants payés à peine, enfin payés au SMIC, c'est, un étudiant étranger ne peut compter que officiellement sur 60% d'un SMIC. Donc, c'est très très difficile.
Et donc, ces difficultés peuvent entraîner des situations catastrophiques jusqu'à des menaces d'expulsion. Vous avez été confrontée à cela, Catherine Fillon ?
Non, on est confronté à des problèmes de non-renouvellement de cartes de séjour. Ça, oui, certains étudiants sont confrontés à ça. Ou alors, la préfecture qui met un temps infini à délivrer les papiers qui permettent à l'étudiant de travailler. Donc, pendant ce temps-là, sa situation se détériore évidemment encore un peu plus. Oui.
Dans le film, cette jeune Lina essaye de trouver un travail pour payer son loyer puisqu'elle ne peut pas vivre avec son oncle et sa tante, qu'elle est en rupture avec sa famille. Le logement, c'est l'un des premiers facteurs d'inégalité, Camille Peny, et puis c'est particulièrement un problème évidemment pour les jeunes défavorisés qui vivent à la campagne.
Oui, on le disait tout à l'heure, hein, le logement c'est vraiment le plus gros poste du budget des étudiants, donc c'est un amplificateur des inégalités. Effectivement, les jeunes qui habitent plutôt dans les zones rurales ou dans les zones périurbaines, à plusieurs dizaines de kilomètres des universités, ben, sont dans l'obligation d'habiter dans un studio, dans une chambre de bonne. Et donc c'est très souvent plusieurs centaines d'euros par mois. C'est pour les familles évidemment un coût très important. Et puis même pour les jeunes qui habitent davantage à proximité d'un établissement d'enseignement supérieur, ça vient créer d'autres inégalités, alors qu'ils sont plus... je sais pas comment il faut les appeler, plus horizontales peut-être, mais par exemple si vous prenez les étudiants qui habitent à Paris avec leurs parents, être étudiant, avoir 18 ans, 20 ans, 22 ans, c'est aussi un moment où on a envie de prendre son indépendance, et quand vous êtes issu d'une famille qui a de l'argent, qui a du patrimoine, eh bien évidemment c'est beaucoup plus facile de vous payer ce luxe de l'indépendance, et parfois la cohabitation avec les parents jusqu'à un âge prolongé implique voilà, une moins de liberté, et finalement la vie étudiante, c'est ça aussi, c'est être autonome, c'est avoir des moments de sociabilité, et donc effectivement le logement au final vient créer, amplifier un certain nombre d'inégalités.
Et le problème, c'est que l'origine sociale pèse encore beaucoup, on l'a compris, dans la réussite scolaire. Or, le fait de détenir un diplôme ou non continue de séparer la jeunesse en deux. Les jeunes diplômés sont les jeunes non diplômés sont en plus particulièrement peu visibles, Camille Peny, parce qu'ils n'ont pas de syndicat pour les représenter, contrairement aux étudiants.
Oui, alors c'est vrai que la société française est peut-être plus que les autres pays de l'OCDE une société qui fonctionne au diplôme, c'est-à-dire que quand on regarde l'emprise qu'exerce le diplôme sur l'ensemble de la carrière, c'est-à-dire pas seulement sur le premier emploi, mais sur l'ensemble du déroulé de la carrière, c'est en France, au sein des pays de l'OCDE, que cette emprise est la plus forte. Et par ailleurs, c'est aussi en France, malheureusement, ça on le sait grâce aux enquêtes PISA, qui font grand bruit à chaque fois que ces résultats sont publiés, c'est aussi en France que l'origine sociale pèse le plus fortement sur les résultats scolaires. Donc en fait, les jeunes Français jouent presque, si je caricature beaucoup certes, mais pour me faire comprendre, jouent presque une grande partie de leur vie professionnelle sur la foi d'un diplôme qui est obtenu à l'issue d'une compétition qui est socialement faussée dès le départ. Mmh. Et donc effectivement, ceux que certains de mes collègues appellent les vaincus de la compétition scolaire finissent par évoluer sur une sorte de second marché du travail où il y a un petit peu d'emploi précaire quand il y a de la croissance et où le chômage arrive bien vite dès que la conjoncture se retourne. Et effectivement, ces jeunes, par exemple, ces jeunes NEET, comme les appelle l'OCDE, c'est-à-dire les jeunes qui sont ni en formation initiale, ni en emploi, ni en formation continue, et que la DARES, et dont la DARES estime le nombre à peu près 1 million en France, eh bien, ils sont beaucoup plus invisibles, parce que dans nos représentations de la jeunesse, c'est la jeunesse étudiante qui apparaît en premier, et la jeunesse étudiante, malgré toutes ces difficultés qui sont réelles, elle a des syndicats, elle a des associations, et puis, effectivement, les jeunes NEET, les jeunes chômeurs sont beaucoup moins visibles dans le débat public.
Et des jeunes qui, effectivement, s'ils n'ont pas travaillé, ne touchent même pas le RSA tant qu'ils n'ont pas 25 ans. Catherine Fillon, quel est votre regard sur cette pression particulièrement forte en France à l'égard du diplôme ?
J'aurais du mal à répondre à cette question. Je pense que certains jeunes, et on a parfois, parmi nos étudiants, ce type de conversation quand on les voit en situation d'échec répété, de discuter avec eux de ce qui serait peut-être un petit peu plus opportun de faire compte tenu de leur profil. C'est-à-dire que les études universitaires ne sont peut-être pas faites pour tout le monde. Et peut-être ça, c'est une chose, une conscience qui fait défaut quand on les entreprend. C'est quand même très très particulier. Ça requiert des qualités d'autonomie, de maturité pour réussir des études universitaires. Il faut les deux, l'autonomie et la maturité.
Mais il y a des structures où on accompagne davantage peut-être, voilà, comme dans les IUT.
C'est ça, et leur faire comprendre que effectivement. Effectivement, peut-être que plutôt que parfois il y a des rêves qu'on comprend bien, mais faire comprendre que il manque un bagage qui permet d'entreprendre ce long voyage des études universitaires avec succès. Mmh. Inversement, on a des étudiants qui sont obsédés par la nécessité de travailler très vite, donc qui vont privilégier l'IUT et s'en mordre les doigts après en se disant finalement j'ai les capacités de mieux faire, ou de faire plus long. Heureusement, là il y a des passerelles. Là, il y a des passerelles.
Mais on voit que ce sont des arbitrages très difficiles à faire et il y a particulièrement besoin pour ces jeunes étudiants de conseils, puisque ce ne sont pas forcément des conseils qu'ils peuvent prendre auprès de leur entourage.
Voilà, c'est ça. Et bon, les universités mettent ce type de conseils en place sur les chaînes d'inscription, mais c'est un peu tard lorsque l'étudiant arrive au moment de s'inscrire. Mmh. Bon, il a déjà pris une décision. Et c'est quelque chose, je pense, que c'est de l'information qui devrait être donnée bien en amont.
Dès le lycée.
Oui, je sais que dans certains lycées, en tout cas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le font, puisqu'on nous a demandé, on m'a demandé à moi d'intervenir auprès de lycéens pour leur expliquer en quoi consistent par exemple les études de droit vers lesquelles ils envisageraient de s'orienter. Donc quelles qualités il faut posséder. Essayer de mettre les futurs étudiants dans une posture de réflexion et d'évaluation de leurs possibilités.
Il y a un vrai enjeu autour de l'information dans le parcours scolaire, Camille Peny.
Oui, de l'information. Il faut bien voir que le système d'enseignement supérieur est quand même très hiérarchisé. Souvent, l'université n'apparaît pas comme le premier choix des étudiants. ou pour le dire plus exactement, les filières qui sélectionnent clairement à l'entrée, comme tout le système évidemment des classes préparatoires aux grandes écoles, ou même le système de l'enseignement supérieur court, hein, les IUT, sont perçues comme étant des voies plus certaines, et souvent à l'université arrivent aussi des étudiants qui sont pas forcément effectivement les mieux préparés à la poursuite de l'enseignement supérieur, et comme par ailleurs on a des taux d'encadrement faute d'un investissement digne de ce nom dans l'enseignement supérieur en France, comme on a des taux d'encadrement qui ne cessent de se dégrader, et bien effectivement c'est difficile de faire réussir des étudiants de L1 qui sont fréquemment bacheliers professionnels ou technologiques dans des amphis de 120. Donc il y a aussi cette question de des conditions dans lesquelles on accueille les étudiants, et puis il y a toute la question de la seconde chance, parce que après tout échouer ou ne pas aller aussi loin que prévu dans ses études supérieures, dans un pays où la formation professionnelle existe vraiment, au sens où elle profite vraiment à ceux qui sont moins diplômés de la formation initiale, eh bien c'est aussi quelque chose qui permet de réduire les inégalités après la formation initiale. Or en France, on sait bien que la formation professionnelle bénéficie davantage aux cadres qu'aux ouvriers, par exemple. Elle bénéficie davantage à celles et ceux qui sont déjà diplômés de la formation initiale. Elle vient donc redoubler les inégalités. Donc c'est ça aussi l'angoisse du diplôme en France. C'est le sentiment que derrière, finalement, il y a relativement peu fréquemment la possibilité de rebondir ou de reconquérir ce terrain, si je puis dire.
Catherine Fillon, Camille Peny, il y a tout juste un an, un jeune homme de 22 ans, Anas, s'immolait par le feu à Lyon pour dénoncer sa précarité. Alors il est heureusement sorti de l'hôpital en juin dernier, après des mois de coma. Mais c'est un geste désespéré qui en dit long sur les difficultés de certains étudiants aujourd'hui. Difficultés qui sont aggravées par la solitude des deux confinements et en particulier de celui-ci. Catherine Fillon, vous constatez une solitude, une grande détresse psychologique des étudiants?
Oui, bien sûr. Au premier confinement, elle était déjà là. Elle était liée aussi, beaucoup d'étudiants étrangers. Hein, c'était notre public à ce moment-là, donc très coupé, bien sûr, des familles, s'inquiétant beaucoup pour leur famille, se disant que s'il arrivait quelque chose à leur famille, ils ne pourraient rien faire, et inversement. Donc il y avait énormément d'angoisse. En discutant avec eux, j'ai constaté en fait que ces étudiants restaient entre eux, n'entraient pas en relation avec des étudiants français, ce qui était une cause de très très grande souffrance dans ce moment où les quelques repères qu'ils avaient accumulés depuis leur arrivée en France avaient volé en éclats. Vers qui se tourner, vers quoi se tourner, mais il n'y avait plus rien. Bon, au deuxième confinement, le deuxième est pire que le premier, parce que le premier est intervenu au mois de mars-avril, donc ces étudiants étaient là depuis quelques mois déjà, donc il y avait un mini réseau relationnel qui s'était créé. Mais quand un confinement intervient à la fin du mois d'octobre, dans un contexte où les cours ont eu lieu déjà en distanciel avant même le confinement, autant dire que ces étudiants qui arrivent ne connaissent personne, mais absolument personne, et n'ont pas eu l'opportunité de commencer à tisser un réseau de camaraderie.
Et c'est pour ça que vous avez mis des parrainages en place pour que les jeunes qui en ont besoin puissent bénéficier d'un certain soutien psychologique, Catherine Fillon?
Oui, le parrainage, ça repose sur l'idée que, c'est un constat c'est le constat de l'expérience du printemps. Ces étudiants, en particulier les étrangers, et j'ai envie de dire les étrangers à Lyon, parce que ça peut être aussi des étudiants français, mais qui viennent d'ailleurs et qui sont arrivés à Lyon et qui connaissent pas grand monde non plus. Je me suis rendu compte que ils sont jeunes encore, ils sont encore très jeunes, et qu'ils étaient complètement perdus par rapport à cette situation. Et que simplement, quand moi je passais un coup de fil pour savoir comment ça allait, immédiatement ça allait beaucoup mieux. Et je me suis dit, en réalité, ils ont tout simplement besoin d'être mis en relation avec un adulte ou des adultes référents qui s'engagent à les accompagner, à les guider dans les démarches administratives, médicales. Et ça libère, je l'ai fait dernièrement là, avec plusieurs étudiantes que j'ai mises en relation avec des familles lyonnaises qui acceptent de les suivre, d'être présentes pour elles, de les inviter à la maison dès que ça sera possible, une à deux fois par mois à manger. Immédiatement, même après les premières mises en relation purement téléphonique et virtuelle, l'étudiant retrouve du poil de la bête. Mmh. Il y a une petite étudiante qui m'a dit « Oh là là, mais c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux, vous me redonnez de l'espoir. » Voilà.
C'est dur aussi parce qu'il y a parfois des journées entières de cours en ligne. Il y a une étudiante qui raconte comme ça qu'elle a parfois 7 heures de cours d'affilée en ligne. Elle raconte ça dans le journal Le Monde, pratiquement sans pause, et que le seul moment où elle peut sortir, il fait nuit. C'est aussi ce qui rend ce confinement si difficile, Catherine Fillon.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est le face-à-face avec l'ordinateur, sans interaction humaine. Parce que l'enseignement à distance, c'est quand même pas de l'enseignement, quoi. Enfin, pour moi, je n'y arrive pas, quoi. J'arrive pas à le considérer comme un acte d'enseignement véritable. L'enseignement, c'est une relation humaine, et l'écran s'interpose, hein, et casse cette relation humaine. Donc effectivement, c'est très dur. Beaucoup de mes étudiants me disaient juste avant le confinement, ça va être affreux, parce que moi, j'ai besoin de venir physiquement à l'université pour me sentir dans une dynamique de travail. Mmh. Donc, là, ce qu'il leur est demandé, c'est une capacité à s'auto-motiver, à garder la motivation. Moi, j'essaye de leur dire, écoutez, là, ce qu'on vous demande de faire, c'est de vivre comme des universitaires. Nous, on a l'habitude de ça, de vivre coupé du monde, mais pas vous.
On leur demande une maturité en accéléré.
Ouais, c'est ça. Et là, c'est presque la solitude du chercheur qu'on leur demande d'affronter. Alors, tous les tempéraments ne sont pas faits pour ça. Moi, je leur donne des petits conseils. Essayez de travailler en petits groupes. Des gens que vous connaissez de vos TD, retrouvez-vous, faites-vous des petits groupes de travail à distance pour au moins échanger, essayer de voir si vous avez bien compris la même chose. Voilà, stimulez-vous, interrogez-vous, questionnez-vous. Ça vous permet de vous retrouver et d'essayer de stimuler l'apprentissage.
Alors, cette détresse psychologique dont on parle, et je vous demanderai de conclure là-dessus, Camille Penny, parce qu'il nous reste très très peu de temps, mais est-ce que ça n'a pas aussi permis de mettre en lumière davantage, détresse psychologique bien sûr, mais aussi détresse économique de ces étudiants, mettre en lumière ces difficultés et remettre sur la table cette idée d'un revenu minimum pour les jeunes, qui est une idée ancienne, mais qui progresse dans le débat public? Camille Penny.
Oui, oui, effectivement. C'est-à-dire qu'on voit bien que pour traverser les crises successives, si on avait des dispositifs plus pérennes, la situation serait meilleure. Et moi, je pense, d'une manière générale, que les dispositifs qui sont individualisants, c'est-à-dire on aide les jeunes de plus de 18 ans directement plutôt que d'aider les parents pour que ces derniers les aident éventuellement, sont des dispositifs qui vont dans le bon sens. Donc, j'ai rapidement parlé de l'allocation formation au Danemark. Il ne s'agit pas qu'il faut faire dans les 2 ans exactement la même chose, avec les mêmes montants pour la même durée. Mais moi, je pense effectivement qu'il faut s'inspirer de ces politiques individualisantes.
On peut s'en inspirer. Un grand merci à Catherine Fillon et Camille Penny de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Camille Penny, Inégalité et reproduction sociale, paru au Seuil il y a quelques années. Tout de suite, c'est l'heure du journal de l'écho de Xavier Martinet.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Le risque pandémique exclut des contrats d'assurance des restaurateurs à partir du 1er janvier. Suite d'une longue bataille depuis le premier confinement, le risque extrême peut-il être couvert ?
Eh bien, après des mois de polémique, l'assurance place les restaurateurs au pied du mur, effectivement, à accepter de ne plus être couverts pour les pandémies ou résilier leur contrat. Le conflit au sujet des pertes d'exploitation dues au confinement avait entraîné le leader mondial AXA dans une série de procès, et la victoire fin mai d'un restaurateur parisien avait été suivie aussi d'une véritable révolte des chefs. Mais la bataille judiciaire s'éternise, elle a lieu aussi au Royaume-Uni et aux États-Unis, et pendant que restaurateurs et assureurs se renvoient leurs interprétations, pas d'indemnisation rapide et le système est bloqué. Avec la pandémie, il révèle même ses limites, écrit dans les Échos la spécialiste du sujet Solène Poulnek. 93% des contrats ne couvrent pas les pertes d'exploitation sans dommages matériels, et selon l'autorité de contrôle, l'ACPR, seuls 3% des assurés couverts peuvent prétendre sans ambiguïté à l'indemnisation.
Et le monde de l'assurance se retrouve ébranlé, Xavier ?
Oui, l'image d'abord tremble avec une hausse de 80% de ses bénéfices en 2019. AXA fait aisément figure d'assureur vampire et face à l'accumulation des griefs, les courtiers ont débordé d'imagination. Ristourne de la Maïf et de la Matmut, investissement d'AXA de 500 millions d'euros dans les PME et même une prime forfaitaire aux entreprises lâchées par le Crédit Mutuel hors de tout contrat. Or, ces pratiques divisent aussi le secteur. Des concurrents du Crédit Mutuel ont demandé des sanctions et la Fédération française de l'assurance, qui avait versé 400 millions d'euros au fonds de soutien pour les entreprises sous la pression du gouvernement, a perdu au passage deux importants réassureurs. C'est donc la corde au cou et la balle dans le pied. Plus grave encore, alors que les contrats sont en pleine renégociation, le marché est en train de se retourner à la suite des réassureurs. Les compagnies d'assurance ont aussi décidé de rayer le risque pandémique de leurs contrats et d'augmenter leurs primes. C'est donc tout l'équilibre entreprise-assureur qui change, poursuit Solène Poulnek. La fin de près de 20 années où le rapport de force entre assureurs et entreprises était souvent favorable à ces dernières.
Ça veut dire, Xavier, qu'il faut s'attendre à un système assurantiel moins généreux ?
Eh bien, 4 milliards d'euros de pertes d'exploitation ont déjà été indemnisés, mais le problème, plaide la Fédération des assureurs, c'est que l'assureur ne peut que répartir un risque, c'est-à-dire utiliser les primes du plus grand nombre qui n'est pas touché pour indemniser ceux qui subissent un sinistre. C'est ce qui arrive d'habitude quand vous percutez une voiture ou que la cuisine de votre restaurant prend feu. Ce sont ce qu'on appelle les risques de la vie, mais l'épidémie et le confinement sont des risques systémiques. C'est le plus grand nombre qui est touché et les 60 milliards de pertes d'exploitation à indemniser représenterait 110 années de primes, ni mutualisables, ni assurables, déclare la présidente de la Fédération française de l'assurance.
Alors, régime de catastrophe sanitaire ou assurance pandémie, quelles sont les solutions, Xavier ?
Eh bien, il y aurait d'abord ce qu'on appelle l'État assureur en dernier ressort, qui intervient par exemple dans le régime de catastrophe naturelle, dit CatNat. L'Union des métiers de l'industrie hôtelière avait demandé un régime semblable pour les catastrophes sanitaires, mais le gouvernement a jugé une telle réplique inopérante. À la place, il négocie avec assureurs et entreprises un partenariat public-privé pour un nouveau système CATEX, pas CASTEX, qui couvrirait tous les risques de catastrophes exceptionnelles, catastrophes naturelles, terrorisme, mouvements sociaux type gilets jaunes, et même fermeture administrative décidée par l'État. C'est donc l'assurance pandémie, cependant toujours pas finalisée.
Alors qui peut répondre aux risques extrêmes ?
Eh bien, les risques climatiques ou risques cyber, par exemple, comment anticiper sur les signes noirs par nature imprévisibles ? C'est ce que demandait hier dans Les Échos le PDG d'Allianz, Jacques Richier. Le premier groupe européen vient en effet de créer avec le CNAM une chaire nouveaux risques avec une définition bien plus large que celle des contrats d'assurance qui va jusqu'au surendettement et aux fake news, zone grise de risques mal connus, continue Richier, mal gérés ou mal couverts, que le secteur de l'assurance n'a pas les moyens, dit-il, de financer ni même de modéliser seul. Se pose donc alors le problème crucial de l'assurance beurre, Tiffen, que faire lorsque le climat se réchauffe inévitablement et que votre frigo risque de tomber en panne à cause des terroristes, des émeutes ou des factures que vous ne pouvez plus payer ? Eh bien, les éditeurs suisses Plonk et Replonk ont déjà répondu cette année dans leur calendrier. Joie et bonheur au pays du beurre.
Merci beaucoup, Xavier Martinet. Votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr. Et merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique Ludovic Auger. Demain, l'écho prend ses vacances avec un peu d'avance après la fermeture des stations de ski. Peut-on encore sauver la saison touristique d'hiver ? Rendez-vous sur les pistes à partir de 14h. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellente journée à l'écoute de France Culture.